cours E de traitement numérique du signal. Ce cours est décomposé en 8 parties. Tout d'abord, des exemples de filtres analogiques issus de la propagation des ondes. Ensuite, une présentation des différents filtres, passe-bas, passe-haut, passe-band, coupe-band, passe-tout. Et ensuite, c'est la partie sur le repliement de spectre. Donc d'abord avec le mécanisme, un exemple de mécanisme qui illustre la notion de repliement spectral, le stroboscope. Ensuite, la notion elle-même de repliement spectral. Le critère qui permet, de Shannon-Nyquist, qui permet d'éviter le repliement spectral. Comment on peut reconstruire le signal après échantillonnage. Et enfin, quel filtrage apporter lorsqu'on fait du sous-échantillonnage et quand on fait du sur-échantillonnage. Alors, une onde se propage à vitesse constante. Cette notion peut s'illustrer sur un ressort qui, chaque spire du ressort a une certaine masse. Et lorsqu'on appuie à une extrémité, cette masse, cette surpression se déplace au fur et à mesure du ressort. Donc c'est la même idée qui existe lorsque l'heure émet un signal sonore. Ce signal sonore se propage au fur et à mesure de la distance. Et comme la vitesse de propagation est une constante, et on a une relation entre la distance parcourue et le temps nécessaire à l'onde pour parcourir cette distance-là. C'est cette relation-là qui permet de prévoir les effets et le comportement d'un filtre et d'un signal sonore dans une pièce et des échos qu'il peut y avoir. Donc ici, dans cet exemple-là, on a un haut-parleur qui a une partie de la pièce, un observateur qui est au milieu et qui entend le haut-parleur, en fait, à travers des ondes qui parcourent deux chemins différents. Un chemin direct avec une distance R1 qui provoque un retard noté TA qui est égal à R1 sur C. Et d'autre part, le même observateur entend le même message mais avec un retard différent parce que le chemin est passé par R2 puis par R3 et donc a subi un retard TB égal à R2 plus R3 sur C. La modélisation en termes de traitement de signal de la transformation du son entre le haut-parleur et l'observateur est donnée par l'équation qui est tout en bas, S0 égale A facteur de S de T-TA plus B facteur de S de T-TB. Cette relation-là est un exemple de filtre analogique et introduit une déformation sur le signal émis, on parle d'écho ou d'interférence. Alors il s'agit d'un filtre analogique passe-bas. Transparent 5. L'effet Larsen est l'exemple d'un filtre qui n'est pas stable, un filtre analogique qui n'est pas stable. Alors le mécanisme, c'est un chanteur parle devant un haut-parleur et les haut-parleurs sont situés pas très loin du microphone. Lorsque le chanteur parle devant le microphone entend aussi les haut-parleurs. Il l'entend à travers deux chemins, principalement un chemin en zigzag où le haut-parleur transmet le son à travers un mur, puis un deuxième mur, puis au microphone, et puis éventuellement aussi un chemin latéral, mais en général comme les haut-parleurs sont directifs, le chemin latéral est de faible intensité. Par ailleurs, le signal émis par le microphone arrive aussi dans le haut-parleur. On a donc réalisé une boucle entre le signal émis sur le microphone qui arrive dans le haut-parleur, qui va du haut-parleur au microphone, une boucle infinie qui conduit à augmenter au fur et à mesure la force du son qui est écouté. Donc c'est là qu'on produit une instabilité. Alors cette instabilité dépend de la distance entre le haut-parleur et le microphone, elle dépend bien sûr aussi de la direction. L'instabilité présente donc des fréquences particulières où le filtre entre en résonance. Ces fréquences sont les multiples les unes des autres et lorsqu'ils sont près les uns des autres, dans ce cas-là, les le temps de propagation entre le haut-parleur et le microphone est petit, et donc les pics sont relativement espacés en termes de fréquence. Par contre, ils sont très forts en termes de fréquence. Quand on éloigne le haut-parleur, transparent 7, les pics sont plus resserrés les uns des autres, mais ils sont aussi beaucoup plus faibles. Alors, maintenant, on va présenter les filtres analogiques les plus courants. On distingue tout d'abord le filtre passe-bas, qui vaut 1 pour les fréquences faibles et 0 pour les fréquences élevées. On appelle la fréquence de coupure notée FC la fréquence où on passe de 1 à 0. Donc ici, on a représenté un filtre idéal, qui a un comportement qui vaut, dont la réponse fréquentielle vaut soit 1, soit 0, mais on appelle passe-bas tous les filtres dont la courbe a grosso modo une allure pour laquelle, sur les fréquences basses, elle a grosso modo une valeur égale à 1, et pour les fréquences élevées, grosso modo une valeur égale à 0. A l'inverse, on a un passeau qui vaut 1 pour les fréquences élevées et qui vaut 0 pour les fréquences basses. On a aussi la notion d'un passe-bande qui vaut 1 sur une certaine plage de fréquence et 0 partout ailleurs, y compris en la fréquence nulle. A l'inverse, le coupe-bande vaut en général 1 sur toutes les fréquences, sauf sur une plage de fréquence particulière où il vaut 0. Enfin, le passe-tout est un filtre qui vaut 1 partout, mais qui éventuellement, en module, il vaut 1 partout, mais en phase, il peut éventuellement avoir un déphasage. Alors un exemple de passe-tout, c'est la relation qu'il y a entre un haut-parleur et un observateur, en supposant qu'il n'y ait aucun écho. Sur les filtres numériques, on distingue aussi la même classification, passe-haut, passe-bas, passe-bande, coupe-bande, passe-tout. La différence, c'est que comme le filtre est numérique, la réponse fréquentielle est nécessairement périodique de période FE, puisque cette réponse fréquentielle a été calculée avec une transformée de Fourier à temps discrète. Alors, ce qu'on appelle cette réponse fréquentielle, c'est donc un filtre est défini par une relation entrée-sortie. Le filtre numérique transforme une entrée qui est un signal temps discret en une sortie qui est un signal temps discret non périodique. On a l'expression équivalente dans le domaine fréquentiel, à savoir que le filtre transforme la transformée de Fourier à temps discret de l'entrée en la transformée de Fourier à temps discret de la sortie, en affectant la transformée de Fourier à temps discret de l'entrée d'une certaine pondération. Certaines fréquences sont entièrement conservées, d'autres fréquences ne sont pas du tout conservées. Alors, on a la même distinction. Passe-bas pour un filtre dont la réponse fréquentielle vaut 1 au voisinage de la fréquence nulle et 0 au voisinage de la fréquence de FE sur 2, mais dans la mesure où il est périodique de période FE, il est évident qu'un passe-bas aura une réponse fréquentielle égale à 1 au voisinage de FE et au voisinage de 2FE et de 3FE et de 4FE, puisque c'est périodique de période FE. De même, le passeau vaut 1 à une réponse fréquentielle qui vaut 1 au voisinage de FE sur 2 et de moins FE sur 2 et 0 au voisinage de 0. Un passe-bande a une réponse fréquentielle qui vaut 1 sur une plage de fréquence entre 0 et FE sur 2, et de même, la même plage de fréquence entre 0 et moins FE sur 2. Il n'aurait pas de sens à vouloir synthétiser un passe-bande qui aurait une plage de fréquence sur laquelle il vaudrait 1 en dehors de l'intervalle de moins FE sur 2 et FE sur 2, puisque de toutes les façons c'est périodique, et donc le comportement au-delà de FE sur 2 se déduit du comportement entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Donc sur le coupe-bande, c'est une réponse fréquentielle qui vaut 1 partout entre moins FE sur 2 et FE sur 2, sauf en deux plages de fréquence. Et le passe-tout vaut 1 partout, mais avec un déphasage qui éventuellement peut changer. Maintenant, on va présenter le problème du repliement de spectre en l'illustrant à travers le stroboscope. Donc ici, il s'agit d'un disque qui tourne rapidement, mais qui n'est représenté, la position du disque n'est représentée qu'à des instants régulièrement répartis. Et en réalité, c'est ce qui se passe quand on observe un disque qui tourne relativement vite, c'est que l'œil ne voit qu'une image toutes les 25 images par seconde, ou 15 images par seconde, et donc ne voit le disque qu'à travers ses positions successives, même s'il a pu se déplacer plus vite. Donc là, c'est le disque qui se déplace à une vitesse plus lente, et lorsqu'on augmente la vitesse, eh bien dans cet exemple particulier, en fait, donc c'est le transparent suivant, transparent 11, on voit au contraire que le disque se ralentit. Alors l'explication se retrouve dans le transparent 12 sous la forme de courbe. Donc on a la courbe qui formait des triangles et la représentation de la position angulaire du disque en fonction du temps. Donc le fait qu'il va assez vite, c'est que quasiment entre deux observations successives, il a quasiment repris la même position, il a déjà fait un tour entier. Et dans le premier exemple, on voit que le stroboscope avance tout doucement parce que il y a un petit décalage entre chaque observation, l'angle n'est pas tout à fait la même et la vitesse apparente est donnée par l'allure de l'ensemble des points, alors que la vitesse réelle est en fait donnée par l'angle des traits du triangle. Et on voit bien qu'entre la vitesse apparente et la vitesse réelle, il y a une grosse différence. Mais on voit aussi qu'une petite modification de la vitesse réelle ou de la période d'échantillonnage sur les deux, peut donner une vitesse apparente très différente sans que ça puisse réellement être une indication pertinente de la vitesse réelle du signal. Alors, en traitement de signal, la notion de repliement de spectre, on va pouvoir l'illustrer ici sur un exemple. Donc, on a considéré en haut à gauche un signal qui est temps discret. Et donc, c'est en bleu. Et en dessous, on a considéré le spectre en bleu foncé. Donc, c'est la fréquence qui est en abscisse. Et en ordonnée, on a représenté le module. Maintenant, si on prend le signal échantillonné, qui est représenté en haut à gauche par des points, et en bas à gauche par les traits continus rouges. Et ce qu'on s'aperçoit, ce que nous dit la théorie, c'est que les traits en rouge sont égaux à la somme du trait bleu plus le taux décalé 10, 10 étant la fréquence d'échantillonnage, plus la courbe en bleu décalé de moins 10. Et la somme de toutes ces courbes-là nous donne la courbe en rouge avec plusieurs pics. Alors, en fait, cette somme n'est pas à faire sur les modules des spectres. Elle est à faire sur la partie complexe des spectres. Et c'est précisément parce qu'en F sur 2, c'est-à-dire en F égale 5 Hz, la phase des deux signaux qu'on ajoute sont en fait en opposition de phase, que le module se trouve être nul à cet endroit-là au lieu d'être un peu plus important à cet endroit-là. Donc c'est ce qui s'explique, donc la relation, on l'observe bien sur cet exemple-là, que la courbe rouge est bien la somme de la courbe bleue déplacée à droite de 10 et déplacée à gauche de moins 10, mais à condition de la prendre en valeur complexe. Donc c'est ce que dit la formule qui se trouve en bas à gauche. Le fait que la sommation se fasse en complexe et que effectivement la phase de l'un et de l'autre sont en opposition, c'est ce qu'on peut observer, ce qu'on peut confirmer avec la courbe en bleu clair qui est sur la phase. Alors à droite, sur la colonne de droite, c'est la même expérience, mais cette fois-ci avec des signaux périodiques. Donc on a le signal en bleu, qui est la courbe continue. Dans la mesure où elle est périodique, la transformée de Fourier, c'est une série de Fourier Et donc, c'est une succession de pics qui se trouvent en bas, représentés en bleu. Et puis, le signal échantillonné, qui lui aussi est périodique, et donc la transformée de Fourier est une transformée de Fourier discrète, c'est-à-dire que le signal est périodique et elle est représentée avec les traits rouges. Et ce qu'on peut observer de la même façon, c'est que la somme des coefficients complexes issus du calcul de la série de Fourier, décalés de plus 10 et de moins 10, produit les coefficients complexes représentés par les points rouges et issus du calcul de la transformée de Fourier discrète. Le fait d'avoir en 5 et en moins 5 un coefficient complexe égal à 0 pour le calcul issu de la transformée de Fourier discrète provient de ce que on ajoute des complexes ayant des phases en opposition. Donc la formule en bas à droite exprime la façon avec laquelle on ajoute les coefficients de la série de Fourier décalés de grand N et de moins grand N pour obtenir les coefficients de la transformée de Fourier discrète. Transparent 14, c'est donc la démonstration de cette formule de repliement de spectre dans le cas temps continu non périodique. Donc la formule de repliement de spectre est donnée en haut. S dièse est la formule calculée à partir du signal temps discret non périodique, tandis que le S chapeau est la formule calculée à partir de l'expression temps continu non périodique. Cette formule rend compatible deux calculs distincts de transformée de Fourier inverse. Le premier est la transformée de Fourier temps discrète inverse, qui est donc 1 sur Fe intégrale de moins Fe sur 2 à Fe sur 2 de S chapeau dièse, donc de la transformée de Fourier. Et le deuxième calcul est la transformée de Fourier inverse, qui est donc une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et en effet, ces calculs sont identiques à condition de faire un changement de variable en f' égale f moins fe, parce que le s chapeau dièse est égal à fe fois la somme des s chapeaux de f moins lfe. Et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini peut se décomposer en une somme infinie d'intégrale de moins fe sur 2 plus lfe à Fe sur 2 plus LFE. Transparent 15. On considère ici l'utilisation de la transformée de Fourier discrète pour calculer quelque chose qui en réalité est un signal à temps continu non périodique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la transformée de Fourier calculée à travers la transformée de Fourier discrète est une approximation. Et l'objectif de cet exemple-là est de montrer d'où viennent les différences entre le calcul effectué à partir d'une transformée de Fourier discrète et le calcul qu'il faudrait faire normalement si on utilisait une transformée de Fourier pour calculer un signal à temps continu. Donc la première étape, on prend ce même signal exponentiel avec le trait en bleu. On obtient, donc c'est en haut à gauche le trait en bleu, et en haut à droite on obtient le module de la transformée de Fourier qui est avec le trait en bleu et un pic en la fréquence nulle. Lorsqu'on échantillonne, on a vu qu'on provoque un repliement de spectre, donc on provoque l'apparition d'un pic en moins 10 et d'un pic en 10, et d'un passage à 0 en moins 5 et en plus 5, dû à la présence d'un déphasage. Il y a une difficulté mathématique qui fait que la théorie sur l'échantillonnage et repliement de spectre est valable si on échantillonne dans ce cas particulier d'une manière assez particulière, qui est qu'à l'instant 0, pour que la théorie mathématique fonctionne, il faudrait que l'échantillon soit à la moitié de la discontinuité, puisque le signal qu'on échantillonne est précisément discontinu en t égale 0. Ensuite, Si on effectue une troncature au bout d'un certain temps, ce qui dans la pratique, quand on fait ce genre d'approximation, est un peu nécessaire puisqu'on va calculer que sur une plage de temps, eh bien, il apparaît que le spectre, lui, est déformé. Il est déformé par l'apparition d'ondulations le long du spectre. C'est la courbe en vert sur le graphique du milieu à droite. Ce sont des oscillations. Et puis, lorsqu'on utilise la transformée de Fourier discrète à la place de la transformée de Fourier à temps discrète, ce qui est intéressant du point de vue informatique, parce que la transformée de Fourier discrète est d'une façon générale plus facile à calculer, et en particulier, il existe un algorithme de transformée de Fourier discrète rapide. Eh bien, à la place d'avoir cette courbe avec les ondulations, on a en quelque sorte un échantillonnage dans le domaine fréquentiel, de cette courbe avec ondulation, on a une succession de raies qui est ça. Donc si on résume l'ensemble de l'expérience, on est passé d'un trait continu à un signal périodique représentant les différents échantillons de ce signal de départ, et au niveau spectral, on est passé de quelque chose qui n'avait qu'un seul pic en zéro et ensuite une courbe continue, à une succession de raies, ayant en particulier un pic en 0 et un pic en 10 et un pic en moins 10. Et dans ces raies, on voit quelques déformations liées aux oscillations qui relèvent de la troncature. Alors, sur les équations, voilà, on peut détailler un petit peu les équations. La courbe en temps exponentielle de moins at, la transformée de Fourier, c'est 1 sur j de pi f plus a. Et donc le module, c'est 1 plus a2 plus 4π, 1 sur A2 plus 4π, 2F2. Voilà. Quand on passe à temps discret, on obtient 1 sur 1 moins exponentielle de moins j de πf plus a, facteur de TE. Et on observe qu'effectivement, lorsque TE tend vers 0, c'est approximativement égal à ce qu'on avait déjà vu. Lorsqu'on fait une troncature, on change un petit peu la formule, mais on arrive encore à la calculer. Et lorsqu'on fait une périodisation, on change encore la formule. Transparent 17, on obtient le même phénomène si on fait la troncature puis la périodisation sur le signal, puis l'échantillonnage. Si on change l'ordre dans lequel on fait les opérations, évidemment, on va obtenir la même chose. Donc la troncature, c'est transforme la courbe bleue en la courbe bleu clair à gauche et le spectre bleu foncé en le spectre bleu clair qui présente des oscillations sur la transformée de Fourier. Le fait de faire une périodisation, donc ça, ceci transforme la courbe bleu clair en la courbe rouge, ça transforme le spectre bleu clair qui avait des oscillations en une succession de raies qui représentent le rouge et qui peut être calculé à partir des coefficients de la série de Fourier, puisque le signal qu'on étudie est un signal temps continu périodique. Enfin, si on périodise le signal temps continu périodique en un signal temps discret périodique, on transforme la succession de raies qui était non périodique en une succession de raies qui sont périodiques et qui est égale à la somme du signal précédent plus le signal précédent décalé de plus 10 plus le signal précédent décalé de moins 10. Transparent 18 donne les formules. Transparent 19 donne le critère de Shannon-Nyquist. Donc, le spectre du signal a priori est forcément symétrique puisque le signal de départ était réel et que le module du fait de la propriété de la transformée de Fourier est symétrique. Donc un signal temps continu à une transformée de Fourier qui est symétrique, qui est à valeur pour toutes les fréquences de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On peut donner deux formulations à ce critère de Shannon-Nyquist, à savoir que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à deux fois la fréquence maximum, ou que... Donc ça, c'est la première formulation. Dans ce cas-là, le critère de Shannon-Nyquist est respecté. Ou la deuxième formulation du critère de Shannon-Nyquist, que pour toutes les fréquences au-delà de Fe sur 2, il faut que le spectre soit nul. Dans les deux cas, ça revient à dire qu'il faut, lorsque le spectre est contenu sur une bande moins fmax plus fmax, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois ce fmax. Alors pour reconstruire, si le signal, voilà, à partir du moment où on a un signal à temps discret, on peut chercher à reconstruire le signal à temps continu en faisant l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on recherche le signal à temps continu qui respecte le critère de Shannon-Nyquist et qui produit un tel signal à temps discret. Alors, la façon de produire consiste à multiplier la réponse en fréquence issue du calcul avec la transformée de Fourier à temps discrète du signal à temps discret non périodique par la fonction porte, qui est une porte de largeur FE, c'est-à-dire qui est compris entre moins FE sur 2 et FE sur 2, et qui est d'amplitude 1 sur FE. Et ensuite, à calculer la transformée de Fourier inverse de ce signal, et puis à effectuer le produit de convolution avec le signal de départ. Donc c'est ce qui est résumé dans la formule juste en dessous. X de t est égal à transformée de Fourier inverse de la porte entre moins FE sur 2 et FE sur 2, divisé par FE, convoluée avec le signal à temps discret x dièse de t. Et le résultat de ceci, c'est que x de t est une somme infinie de x dièse de n, donc le signal à temps discret dont on parle, que multiplie une fonction qui dépend à la fois de t et de n et de la fréquence d'échantillonnage. En pratique, on utilise ce signal, cette formule-là, en général, pour calculer la valeur du signal x de t pour une valeur ou pour un certain nombre de valeurs de t. Voilà. Donc cette formule d'interpolation, donc c'est cela qu'on appelle l'interpolation, le fait de passer d'un signal temps discret à un signal temps continu. Alors concrètement, transparent 21, cela revient pour chaque valeur de xn, on fixe l'instant t et chaque échantillon contribue à la reconstruction au titre d'un sinus cardinal particulier. Donc le premier sinus cardinal, par exemple, centré en un certain point. Le deuxième sinus cardinal, il est pondéré d'un deuxième xn. Le troisième est pondéré d'un autre xn. Et quand on ajoute l'ensemble, on ajoute les différents sinus cardinaux. Et c'est ça la reconstruction, c'est le fait d'ajouter tous ces sinus cardinaux. Ensuite, pour résumer la notion d'échantillonnage et d'interpolation sous la forme d'un schéma, on a mis en haut ce qui se passe dans le domaine temporel et en bas du schéma ce qui se passe dans le domaine fréquentiel. En haut à gauche, on a un signal en temps. Le fait de transformer ce signal temps continu à un signal temps discret, donc la première flèche s'appelle l'échantillonnage. Le fait de transformer le signal xn en un signal à temps continu s'appelle une interpolation et est une combinaison linéaire des différents instants des différentes valeurs de xn à différents instants que multiplie un poids qui est lié à la différence entre l'instant t et l'instant nte. Plus t est éloigné du nte, plus cette pondération est faible. Voilà, c'est la formule du sinus d'interpolation avec un sinus cardinal. Maintenant, si on considère le bas, le signal en temps, on calcule son spectre à partir d'une transformée de Fourier. L'échantillonnage est possible si le critère de Shannon-Nyquist est respecté, c'est-à-dire que la fréquence maximale associée au spectre, c'est-à-dire la fréquence au-delà de laquelle le spectre est nul. Donc si cette fréquence maximale est inférieure à FE sur 2, dans ce cas-là, il n'y a pas repliement de spectre, tout simplement parce que le spectre est contenu dans une bande entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Et Dans tous les cas, si le critère qui ne soit respecté ou pas respecté, dans tous les cas, lorsqu'on a échantillonnage dans le domaine temporel, dans le domaine fréquentiel, on a un repliement de spectre, c'est-à-dire que les spectres sont ajoutés, les spectres décalés de FE sont ajoutés les uns aux autres. Et ensuite, à partir de cette formule avec repliement de spectre ou sans, dans le cas où le spectre était nul au-delà de FE sur 2, dans cette formule-là permet de retrouver le signal de départ si le critère de Shannon-Nyquist est respecté, à condition de multiplier par une fonction porte qui est d'amplitude 1 sur FE et qui vaut 1 entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Et le fait de multiplier par cette fonction porte est équivalent à faire une convolution avec un spectre, avec une réponse impulsionnelle qui est égale à la transformée de Fourier inverse de la fonction porte. Alors, dans la pratique, on utilise souvent des signaux qui sont à la base temps discret et que l'on transforme en des signaux temps discret, mais avec d'autres fréquences d'échantillonnage. On parle de sous-échantillonnage lorsqu'on augmente la période d'échantillonnage et lorsqu'on diminue la fréquence d'échantillonnage. Pour avoir un sous-échantillonnage, on a donc une description moins précise du signal qu'au départ, il est nécessaire d'appliquer le filtre avant l'échantillonnage, avant le sous-échantillonnage. Alors, au-dessus, on a encore le domaine temporel et en dessous, on a le domaine fréquentiel. Dans le domaine temporel, Xn, on va faire une convolution avec une réponse impulsionnelle qui donc est une transformation, un filtrage. On part d'un filtre X, on part d'une entrée qui est un signal temps discret non périodique Xn. On arrive avec un signal qui est temps discret non périodique qui s'appelle Xa de n. Ce filtrage est nécessaire pour supprimer les fréquences au-delà de FE sur 4. Alors, dans le domaine fréquentiel, ce qu'on voit, c'est que ça revient à multiplier x chapeau de f par une certaine réponse fréquentielle dont on espère qu'elle ait un passe-bas le plus possible près et avec une fréquence de coupure à FE sur 4. Alors pourquoi FE sur 4? C'est parce que si on sous-échantillonne dans cet exemple-là, on prend un échantillon sur deux, ça veut dire qu'on augmente la période d'échantillonnage par 2 et qu'on divise la fréquence d'échantillonnage par 2. Et à partir du moment où on divise la fréquence d'échantillonnage par 2, il ne faut qu'il n'y ait rien au-delà de FE sur 4 pour le critère de Shannon-Nyquist. Et c'est la raison pour laquelle la réponse fréquentielle ne doit pas dépasser FE sur 4. Donc, le résultat de l'application du filtre transforme le spectre x chapeau de f en xa de f, et ensuite le carré est là pour indiquer qu'on va faire un sous-échantillonnage qui va donc transformer xa de f en xb de f. Lorsqu'on transforme la relation exacte, c'est xb de f égale xa de f, plus xa de f plus fe sur 2, plus xa de f moins fe sur 2. Donc ici, pourquoi on a un fe sur 2? C'est parce qu'on a réalisé un sous-échantillonnage à la fréquence fe sur 2. Le sous-échantillonnage, on a pris un point sur 2, donc on a multiplié par 2 la période d'échantillonnage et on a divisé par 2 la fréquence d'échantillonnage. Donc la formule de repliement spectral ici s'écrit avec un fe sur 2. Mais ce qu'on espère, c'est que xb de f ressemble à xa de f sur l'intervalle moins fe sur 4, fe sur 4. Il est évident que sur l'intervalle fe sur 4, fe sur 2, dans la mesure où c'est périodique, c'est équivalent à ce qui se passe entre moins fe sur 4 et 0, puisque c'est fe sur 2 périodique une fois le sous-échantillonnage fait. Alors si on remonte au niveau temps discret, xa de n est transformé en xb de n en prélevant un échantillon sur 2, ce qui se note mathématiquement en disant que xb de n égale xa de 2n. Alors, le transparent 24 explique ici le suréchantillonnage, c'est-à-dire on va rajouter des points. Lorsqu'on rajoute des points, il vaut mieux suréchantillonner d'abord et filtrer ensuite. Alors, si on prend la partie de haut qui se passe dans le domaine temporel, on a xn qu'on va suréchantillonner, transformer en xa, donc pour les instants pairs, est égal à xn, et pour les instants impairs, on rajoute des zéros. Et bien sûr, il va falloir moyenner tout cela. Mais si on applique simplement un moyen heure, on va se retrouver avec les xn qui est grosso modo égal à xn sur 2. En faisant la moyenne entre xn et 0, on va retrouver xn sur 2. Alors, il faut pas seulement moyenner, mais multiplier par 2 pour retrouver le même niveau moyen du signal. C'est pour ça qu'on convolue par 2 fois hn. Si on regarde dans le domaine fréquentiel, le fait d'avoir suréchantillonné revient à multiplier revient à conserver le même spectre en réalité, xa de f, sauf que xa de f maintenant périodique d'une fréquence d'échantillonnage voilà, plus élevée. Mais xa de f est égal à x de f. Et x de f, en fait, était lui-même périodique de fe. Donc ça veut dire que quand on va représenter sur un graphique la réponse fréquentielle entre moins Fe et plus Fe, et non plus entre moins Fe sur 2 et Fe sur 2, on va se retrouver avec quelque chose qui présente un pic en Fe et un pic en moins Fe qui sont liés au pic qu'il y avait avant en 0. Et il faut supprimer ces pics en Fe, qui représente des pics à la moitié de la nouvelle fréquence d'échantillonnage qui est 2Fe, et pour pouvoir supprimer ces pics, il faut appliquer une fonction porte à chapeau de F qui vaut 1 entre moins Fe sur 2 et Fe sur 2, et qui vaut 0 en particulier en moins Fe et en Fe. Et naturellement, comme on est à la fréquence d'échantillonnage 2Fe, cette réponse fréquentielle d'un filtre numérique, elle est forcément 2Fe périodique et elle vaut donc 1 2Fe, naturellement. Elle remonte. À la fin, on a XB de F qui logiquement doit être égal à 2 fois la réponse fréquentielle de départ pour F appartenant à moins Fe sur 2 et Fe sur 2. XB de F, à la fin, doit valoir 0 entre moins Fe et moins Fe sur 2 et entre Fe sur 2 et Fe. Et la raison pour laquelle il doit valoir 0, c'est qu'en réalité, toutes les informations fréquentielles au-delà de Fe sur 2, on ne les avait pas dans le signal de départ. Il n'est donc pas question de les inventer, puisque on n'a pas de source d'information sur ce qu'aurait été le véritable X de T à ces fréquences-là. C'est la raison pour laquelle on utilise un filtrage pour ne pas faire croire qu'on a des informations là où en réalité on n'en a pas.